Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butch strong and sensitive. Butch are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight, nice and whole.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au féminin.
L'émission pour
déranger
une émission féministe
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir. Bienvenue sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Alors ce soir, c'est une émission un peu particulière, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est une émission de débat. Donc c'est Ernest et moi qui sommes sur le plateau avec nos invités, donc Anaïs, Claire et Mathilde, bonsoir.
Bonsoir.
Et à la technique, Siam, Colline et Sam, et aussi pour écouter le débat et peut-être venir intervenir si des fois ça les démange, quoi. Voilà.
Alors je vais commencer en vous présentant trois bouquins qui sont pas vraiment féministes, enfin pas du tout même, et qui ont tous été écrits entre 68 et 75. Alors le premier c'est un livre, et donc c'est des critiques de la santé qui étaient faites à ce moment-là, et que je trouve on retrouve plus trop maintenant. Alors le
Parce
premier...
que peut-être qu'on a un peu oublié de dire le thème de notre débat. Toi tu commences à fond.
Et voilà, direct.
Et ben voilà, mais vous allez vite comprendre de quoi on va parler ce soir. Donc ce soir on va parler justement de questionnements autour de la santé, la médecine, des médecines on devrait plutôt dire, et un peu discuter de comment on se positionne par rapport à la médecine allopathique, la médecine homéopathique et toutes les autres médecines trucpathiques. Et voilà, on va un peu parler de tout ça. Alors je pense qu'on n'est pas forcément toutes d'accord, donc on va voir comment on peut échanger, et puis j'espère que pour vous ce sera aussi riche de faire naître des réflexions ou de les nourrir. Donc pour commencer, toi tu avais trouvé des bouquins des années 70 et tu vas nous les présenter, ça va peut-être un peu lancer la discussion, quoi.
Voilà, c'est surtout qu'on avait une autre invitée qui n'a pas pu venir mais qui nous a fourni de la littérature, c'était très intéressant. J'ai commencé à lire mais j'ai pas pu tout lire en quelques jours, mais le premier livre que j'ai lu du coup c'est un bouquin qui a été écrit par le Comité d'Action Santé, qui était un groupe de réflexion sur la médecine. Et du coup, c'est le cahier libre, les cahiers libres numéro 138, qui s'intitule Médecine aux éditions Maspero. Et ça a été écrit en 68. Et c'est, ça critique la médecine de plein de manières différentes. Et une des critiques principales, c'est d'analyser la structure sanitaire comme une manière, premièrement, de maintenir les gens en état de travailler. Deuxièmement, de créer un secteur de consommation pour faire tourner l'économie, notamment avec l'achat des médicaments, etc. Et troisièmement, de maintenir les gens en état de consommer. Du coup, c'est des critiques qui existaient à ce moment-là, et ça parle aussi de plein de sujets, comme la mystification de la médecine. Ça dit aussi que les insuffisances médicales et le traitement médiatique des insuffisances médicales, c'est une manière de cacher que la société est un facteur de maladie. Et du coup, ça critique aussi que quand on soigne une maladie, on ne réfléchit pas du tout au contexte socio-économique et on zappe cette partie-là et on s'arrête juste sur des symptômes sans penser à qu'est-ce qui peut créer les symptômes. Et ce qui crée les symptômes, c'est souvent les conditions de vie, les conditions de travail, etc. Voilà, alors le comité d'action santé, cahier libre 138. Ensuite, il y a un autre livre qui a été écrit par Jean Carpentier, qui était médecin. Il a écrit, c'est plein de textes ensemble, de tracts, de poèmes. C'est écrit entre 69 et 72. Et ça s'appelle Texte libre. C'est un livre qui est aussi avec des dessins de Volinsky. Et c'est vraiment horrible. Les dessins sont ultra sexistes et dégueulasses. Du coup, faut zapper les dessins. Après, voilà, lui, il se considère comme anti-santé et il dénonce, pareil, que la société provoque en fait des problèmes de santé et que, selon lui, il faut changer la société pour qu'il n'y ait plus de maladies plutôt que de juste guérir de plus en plus de maladies. Du coup, c'est aussi une critique du travail et du capitalisme. Mais après, il y a toute une partie où il dit que pour être bien et en bonne santé, il faut faire vivre son corps et notamment avoir le plus grand plaisir du monde, la sexualité hétérosexuelle. Alors c'est vraiment horrible, c'est vraiment une partie dégueulasse, hyper homophobe et très sexiste, complètement freudienne, qu'il faut pas lire. Je pense qu'il faut s'arrêter à la 30e page, quoi, parce que le début est vraiment très très intéressant. Voilà, et ensuite un dernier bouquin, qui est un livre d'Ivan Illich qui s'appelle Némésis médical, l'expropriation de la santé.
C'est qui Ivan Illich déjà?
C'est un philosophe des années 70, quoi, un peu. Enfin, il a surtout écrit dans ces années-là. Et c'est sympa, hein, mais c'est dur à comprendre parce qu'il utilise des mots vraiment complexes, un peu latin, tout ça. Mais voilà, alors c'est un bouquin qui est aux éditions du Seuil, qui a été publié en 75. Alors, il fait en gros trois ou quatre grandes critiques. Alors, il parle de l'inefficacité globale et le danger que représente la médecine qui est chère et coûteuse. Il parle du fait que la société provoque les maladies et que le patient n'est pas adapté à son environnement et c'est pour ça qu'il tombe malade. Et puis, il parle aussi du mythe du recul de la mort et de la possibilité de supprimer les douleurs. Et du coup, il dit que ça fait qu'on n'est pas en capacité de manière autonome à faire face aux douleurs, à la mort, etc. Et qu'il y a une perte de sens. Non, il y a plus de sens à la douleur, plus de sens. Bon, c'est un peu philosophique et c'est pas toujours facile à comprendre, mais il y a quand même des choses assez intéressantes dans ces trois bouquins, je trouve, surtout sur le fait que ça dénonce vraiment que la médecine fait partie du système capitaliste.
Après, ça doit pas être des livres très faciles à trouver, non? Ils sont tous été publiés avant les années 80.
Je pense que c'est pas très facile à trouver.
Voilà. D'accord. Peut-être Ivan Illich un peu plus, je sais pas.
Ouais, je pense, j'ai pas trop regardé sur internet, c'est des vieux bouquins récupérés, mais voilà. Moi par exemple, mais après ça m'a posé question aussi de me dire, mais par exemple dans les années 80 il y a eu tout le sida par exemple, et du coup là ça dit un peu comme si les maladies elles existeraient pas sans contexte social. Alors ça parle quand même de grandes épidémies et de, par exemple, de la tuberculose. Et ça dit, mais en fait, la tuberculose, c'était certes très grave et plein de gens en sont morts, mais c'était tellement lié au contexte socio-économique. Mais je me dis, est-ce que, par exemple, je me dis peut-être une partie de ces critiques, elles se sont perdues dans les années 80 aussi avec l'épidémie du sida, où c'est peut-être plus dur de justifier du contexte socio-économique.
Et en même temps, avant, il y avait l'épidémie de syphilis, hein. Enfin, c'est quoi la différence? En fait, il y a plein de gens qui sont morts de la syphilis, et je sais pas si c'est social la syphilis.
Mais ouais, je sais pas.
Tu vois, non, mais c'est juste pour dire, on parle beaucoup du sida comme si ça avait changé des choses, des IST mortels, il y en avait aussi avant. Et c'était pas la même chose, je pense, mais. Ah oui.
Et par exemple, par rapport au sida, il y a aussi plein de théories comme quoi c'est les vaccins qui ont amené le sida, etc. Et du coup aussi d'amener que c'est un contexte social dans des théories alternatives.
Et oui, alors sur le sida, du coup, ça amène beaucoup de négationnistes du sida, justement, qui amènent des théories, soit c'est les blancs qui ont inventé le sida pour éradiquer les noirs, soit c'est les hétéros pour éradiquer les homosexuels, etc. Et c'est là que je vois un peu les dérives de cette pensée. Enfin, moi, je parle personnellement, je trouve que c'est super intéressant de remettre en cause la médecine qu'on a actuellement, surtout sur le plan social, en fait. Quand on va chez un médecin et qu'on a mal au coude, il va nous dire « Ah, bah, je vais vous donner des antidouleurs ». Et en fait, il ne nous a jamais posé la question, mais ça se trouve, en fait, on est caissière et en fait, on a une tendinite parce qu'on fait le même geste répétitif toute la journée. Et du coup, ça, je trouve que c'est un gros manque, justement, dans le système de santé actuel. Mais là, je vois des... Voilà. Par contre, s'il y a un virus qui traîne dans l'air, le virus, il est là, en fait. Et si on l'attrape, bah, peut-être que c'est parce qu'on était plus fatigué. Donc, on va le développer plus facilement. Mais malheureusement, c'est pas le fait qu'on ait des mauvaises conditions qui crée un virus. Et du coup, ça peut amener à des trucs où, justement, on a des négationnismes qui surviennent par ultra-critique, quoi. Et c'est là où je vois un problème, quoi.
Bah ouais, moi j'ai l'impression que dans ces bouquins, ils parlent vraiment de certaines maladies et certains problèmes, genre les insomnies, les troubles gastriques, les ulcères à l'estomac, enfin des maladies ou des problèmes musculaires ou des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai. Et en même temps, ils parlent aussi des épidémies de grippe en disant, mais en fait, tout le monde n'attrape pas la grippe. C'est pas parce qu'il y a des virus dans l'air qu'on les attrape, c'est pas parce qu'il y a des bactéries dans l'air qu'on les attrape. C'est aussi à un moment, par exemple... la quantité d'heures supplémentaires qu'on fait, le nombre d'heures qu'on dort, la quantité de bouffe qu'on peut manger et comment c'est équilibré ou pas, et que tout ça, c'est plein de facteurs en fait qui font qu'on est plus sensible ou moins sensible à des virus, par exemple. Du coup, je trouve ça aussi intéressant. Puis c'est vrai que c'est une critique, ce que tu disais par rapport au boulot ou quoi, que c'est une critique qui tient toujours en fait, de dire, bah, en fait, quand on va chez le médecin, il prend pas en compte les causes ou difficilement en cause. Les raisons en fait qui apportent les problèmes.
Moi justement, je me disais peut-être on pouvait développer un peu plus pour nos auditeurs et auditrices quelles sont les critiques qu'on a à faire de la médecine allopathique, comme on dit. Donc allopathique, ça, je ne sais pas si quelqu'un peut expliquer un peu clairement ce que ça veut dire.
Alors moi j'ai eu une intervention à faire là-dessus. Parce qu'en fait, allopathique, ça a été créé par Hahnemann qui a créé l'homéopathie. Et donc l'allopathie, c'est juste en opposition à l'homéopathie. Et en vrai, du coup, c'est un terme qu'on utilise pour définir la médecine traditionnelle, enfin, telle qu'on l'a dans le système de santé actuel. Mais en vrai, ça a été créé que par opposition à l'homéopathie en 1808, ou un truc comme ça. D'accord, et du coup, moi, ça me pose problème, par exemple.
Et en même temps, du coup, effectivement, comment on le nomme là dans cette émission pour être clair sur ce dont on parle. Donc
ouais.
Là, moi, ce que je proposais, c'est de peut-être expliquer un peu plus, s'exprimer, peut-être que tout le monde puisse s'exprimer sur quelles sont les critiques qu'on a à faire du système de santé actuel, de la médecine en ce moment. Allopathique, ou je ne sais pas comment on va l'appeler.
Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Moi, en tout cas, personnellement, j'ai... En tout cas, dans cette émission, j'ai envie de formuler plusieurs critiques, à la fois comment ce système, ça fait partie d'un système capitaliste et que j'ai envie d'en sortir et qu'à un moment, ça me fait chier d'acheter des médicaments à des grands groupes pharmaceutiques et de faire fonctionner cette économie-là. Et aussi... sur le sexisme qui existe dans le milieu médical, à la fois dans son fonctionnement, sur la proportion par exemple d'infirmières par rapport aux médecins, et pourquoi infirmière c'est un terme féminin et médecin un terme masculin, pourquoi il y a quasiment, enfin il y a en proportion il y a moins de femmes médecins et essentiellement des femmes infirmières, enfin toutes ces questions là, et aussi sur la manière dont on soigne, la manière dont toute la publicité qu'il y a autour de la médecine, tout ça.
Juste une précision sur la proportion de femmes dans le milieu médical. Je pense qu'il faut noter que ces dernières années, la profession se féminise de plus en plus, donc il y a de plus en plus de femmes dans les études de médecine. Par contre, il existe toujours ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire qu'elles peinent, elles ont beaucoup de difficultés à atteindre les hauts postes quoi, dans le milieu médical. Mais par contre, des médecins de ville, par exemple, les médecins généralistes, c'est une profession qui se féminise de plus en plus. pour préciser ce que tu disais.
Et puis je rajouterais dans cette critique le manque de temps passé avec les patients, en fait, où vous avez des médecins généralistes qui s'enchaînent tous les quarts d'heure un patient, que des fois ils appellent client d'ailleurs. Et ça pose aussi un gros problème, justement, où il n'y a plus de place pour les questions. Enfin, est-ce qu'il y en a déjà une, mais il n'y a pas de place pour la question sociale, la question de l'entourage. C'est un peu à la chaîne. Mais je trouve que c'est plutôt, du coup, le système de santé à questionner et à changer là-dessus. Mais Claire, tu veux parler peut-être.
Oui, moi, c'était par rapport à qu'est-ce qui m'intéresse dans, je dirais, du coup, la médecine alternative par rapport à la médecine conventionnelle, par exemple. C'est effectivement le fait de se réapproprier sa santé et de mieux connaître son corps et de plus traiter les symptômes, mais traiter plus le fond, en fait. Mais et donc, moi, c'est ça qui m'a intéressée dans la médecine alternative. Après, par exemple... je trouve que de plus en plus, la médecine alternative se calque sur la médecine conventionnelle, c'est-à-dire d'avoir des rendez-vous chez des médecins d'un quart d'heure où moi je vois aucun sens, alors que j'ai l'impression, il y a une dizaine d'années, d'avoir vraiment des rendez-vous chez des médecins, des fois d'une heure, où on a le temps de creuser des choses, d'avoir l'impression qu'ils ont compris c'est quoi mon problème, etc. Et que maintenant, chez un certain nombre de médecins, je vois plus vraiment de différence, en fait, sur... Enfin, que tout le monde se calque sur un système capitaliste où il y a peu de place, en fait, pour comprendre sa santé et son corps, quoi.
Oui, et puis, enfin, moi, je me questionne aussi sur le terme alternatif. Enfin, c'est une alternative à quoi ? On me dit au système capitaliste, mais justement, tout à l'heure, j'en parlais... L'industrie Boiron, c'est la 116e fortune de France. L'actionnaire, il est 16e fortune de France, l'actionnaire principal. C'est une industrie avec un lobby pharmaceutique comme n'importe quelle autre industrie. Et donc, du coup, je vois des problèmes dans cette alternative économique. Et ensuite, une alternative à des médicaments... moi aussi je me questionne là-dessus, c'est un médicament, c'est quoi? C'est finalement une formule de plante ultra concentrée qu'on a testée, retestée et normalement dont on prouve l'efficacité pour que ça puisse être mis sur le marché. Et donc une alternative à quelque chose qui fonctionne, il faut que ça fonctionne aussi. Alors, ce qui me pose problème dans ces alternatives, c'est que souvent, on ne demande pas autant de preuves dans un médicament alternatif que dans un médicament dit allopathique. On ne demande pas la preuve de l'efficacité autant que dans l'autre. Et donc, là-dessus, il y a deux poids, deux mesures, quoi.
Oui, et puis moi, j'ai envie de rajouter, par exemple, la phytothérapie. On pourrait croire que, je sais pas, enfin, moi, par exemple, comme je l'imagine ou comme je le vis dans ma vie, c'est je vais ramasser des plantes et je me soigne avec et je sais pas, j'essaye autant que je peux, quoi, de récolter un certain nombre de plantes qui me permettent de me soigner moi-même avec des tisanes ou des choses comme ça, et ou en faisant des préparations. Mais pour, je pense, une grande majorité des gens, la phytothérapie, c'est les boîtes de gélules qui sont vendues en pharmacie sans prescription et qui sont surtout faites pour maigrir et je sais pas quoi, et pour le transit intestinal et je sais pas quel autre.
Je vous propose de faire une petite pause musicale avant de reprendre la discussion. Donc une chanson de Barbara sur les insomnies. On en parlait tout à l'heure, peut-être qu'on en reparlera. À tout à l'heure.
Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, je finirai, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Avoir tant de yeux qui se ferment, couchés dans leur lit, je finirai par comprendre qu'il faut que je m'endorme aussi. J'en ai connu des grands, des beaux, des bien bâtis, des gentils, qui venaient pour me bercer et combattre mes insomnies. Mais au matin, je les retrouvais endormis dans mon lit. pendant que je veillais seul en combattant mes insomnies. À force de compter les moutons qui sautent dans mon lit, j'ai un immense troupeau qui se promène dans mes nuits. Qu'ils aillent broutir ailleurs, par exemple dans vos prairies. Labourage et pâturage ne sont pas mes travaux de nuit. Sans compter les absents qui me reviennent dans mes nuits. J'ai quelquefois des vivants qui me donnent des insomnies. Et je gravis mon calvaire sur les escaliers de la nuit. J'ai déjà connu l'enfer, connaîtrai-je le paradis, le paradis? Ce serait pour moi de m'endormir la nuit. Et je rêve, que je rêve, qu'on a tué mes insomnies. Et que pâle, en robe blanche, on les a couchés dans un lit. À tant rêver que j'en rêve, les revoilà mes insomnies. Je rôde comme les chats, je glisse comme les souris. Et Dieu lui-même ne sait pas ce que je peux faire de mes nuits. Mourir ou s'endormir, ce n'est pas du tout la même chose. Pour autant, c'est pareillement se coucher les paupières closes. Une longue nuit où je les avais tous deux confondues. Peu s'en fallut au matin que je ne me réveille plus. Mais au ciel de mon lit, il y avait les pompiers de Paris. Au pied de mon lit, les adjudants de la gendarmerie. Oh messieurs, dites-moi ce que vous faites là, je vous prie, madame. Nous sommes là pour veiller sur vos insomnies. En un cortège chagrin viennent mes parents, mes amis, gravement, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit. Si après l'heure, c'est plus l'heure, avant ça ne l'est pas non plus. Ce n'est pas l'heure en tout cas, mais grand-mère, s'il est revenu, je les vois déjà rire de leur fine plaisanterie. Ceux qui prétendent connaître un remède à mes insomnies, un médecin pour mes nuits, j'y avais pensé moi aussi. Mais c'est contre lui que je couche mes plus belles insomnies. Avoir tant de gens qui dorment et s'endorment à la nuit, j'aurais fini, c'est fatal, par pouvoir m'endormir aussi. Mais si s'endormir c'est mourir, allez c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de dormir en paradis. Si s'endormir c'est mourir, allez c'est moi mes insomnies. J'aime mieux vivre en enfer que de mourir en paradis.
Vous écoutez toujours Dégenré sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Alors, les discussions se poursuivent pendant la musique sur les termes qu'on emploie. Alors, comment on parle pour bien se faire comprendre et aussi entre nous et aussi avec vous. Alors, on espère qu'on arrive à être bien clair sur ce qu'on veut vous dire, parce qu'en fait, je crois, oui, peut-être à la différence d'autres émissions de Dégenré, ce soir, on n'a pas forcément un message à faire passer ou une idée qu'on va développer. Souvent, on défend des choses assez claires et assez précises à Dégenré. Là, ce soir, ben, je sais pas, on défend surtout le fait qu'on a envie de discuter et que cette problématique-là de comment on se soigne. Qu'est-ce qui nous paraît juste, qu'est-ce qui nous paraît pertinent, comment on n'a pas envie de se faire avoir, de se faire arnaquer, et en même temps comment on a envie de prendre soin de nous, et on a envie que les femmes prennent soin d'elles, et que c'est, enfin, on va développer tout ça au cours de l'émission. Donc là, juste avant la musique, donc juste avant Barbara qui nous parlait d'insomnie, on commençait un peu à discuter sur les problèmes aussi que ça pouvait nous poser, les médecines dites alternatives. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on définisse ça. Qu'est-ce que c'est, la médecine alternative ?
Oui, ben justement, on était en train de dire qu'à un moment, la médecine alternative, elle se confondait avec la médecine dite allopathique ou plus conventionnelle. Que choisir une médecine alternative, c'était pas forcément sortir d'un système capitaliste et patriarcal. Du coup, de voir comment aussi on pouvait y trouver des choses bien, mais comment en même temps, eh ben, on restait bloqué dans les mêmes problématiques.
Oui, que les mêmes problématiques que... Enfin, ça me fait penser que tout à l'heure, j'écoutais la radio, justement, et il y a un nouveau magazine qui sort à Lyon pour les femmes. Et donc, les thèmes, c'était santé, médecine alternative, mode, etc. Enfin, et là, je me suis dit, bah, on est en plein dedans, quoi. On surfe sur la vague de l'alternatif, mais en fait, on fait que de recréer un système de consommation. Enfin, du coup, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien d'alternatif dans ce qu'on nous propose, quoi.
En fait, moi, je lis plutôt une sorte de récupération qu'à un moment, de récupération par le marché de branches qui sont mises à fonctionner parce qu'il y a des personnes qui ont voulu sortir, d'un système et que du coup, ça s'est avéré être une bonne branche de vente et que ça a été utilisé et développé au final.
Aussi, moi, j'ai l'impression, c'est le fait qu'à travers, quand on dit médecine alternative, c'est comme à la mode comme le bio maintenant, avec cette idée que c'est plus naturel, donc c'est forcément bon et meilleur, avec aussi cette idée d'avoir une bonne santé parfaite, etc. Et moi, ça me pose aussi des problèmes, enfin, où c'est aussi très vite essentialisant. Et moi, j'ai
essentialisant, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Excuse-moi.
Eh bien, que ce soit au niveau du fait, enfin, du rôle des hommes et des femmes, que ce soit au niveau du type de sexualité, où on va parler du cycle des règles ou des choses comme ça, et où ça, je trouve que ça pose un problème.
Oui, et où essentialisant au sens aussi naturaliste, quoi. La nature est bonne par essence, et la femme prend soin d'elle par essence, elle prend soin du foyer, et donc c'est elle que ça concerne. Et voilà, et du coup, les plantes sont bonnes de toute façon, vu que c'est la nature qui les a données. Du coup, et généralement, on voit en effet que les fondateurs, beaucoup de fondateurs de médecine, enfin, qu'on appelle nouvelles, finalement, qui ne sont pas si nouvelles que ça, c'était des... Il y avait beaucoup de... Bah, généralement, ils étaient riches, blancs et conservateurs, quoi.
Enfin, donc, ce truc d'essentialisant et de naturaliste, c'est vraiment ça. C'est les femmes et les hommes sont naturellement des femmes et des hommes.
C'est ça.
Tout ça, la nature, c'est bien. Donc,
tout est bien en place dans le meilleur des mondes.
Voilà. Ouais. Donc, finalement, c'est effectivement là que c'est peut-être conservateur aussi. Mmh. C'est que ça va conserver des codes rigides de genre que nous, en tout cas, on critique sérieusement, quoi.
Et aussi avec le problème de la médecine alternative paraît naturelle, il y a le fait aussi que les personnes font moins attention et prennent pas ça en fait comme une médecine et comme des médicaments, que soigner par exemple avec des plantes, et ben on va prendre par exemple des tisanes d'une plante qui en fait à forte dose est dangereuse parce que c'est un médicament, et le prendre comme une tisane du soir ou comme... une tisane parce qu'en ce moment on a un peu mal au foie, alors on va prendre ça, et de, en fait, de plus être dans un rapport de médecine avec certains médicaments.
Moi je le vois par exemple par rapport à la phytothérapie, je le vois ce truc là je le vois par rapport à deux choses. Déjà dans l'automédication, comment à des moments des personnes considèrent voilà une plante c'est une plante, alors c'est pas dangereux, alors je peux le prendre comme ça. Et on peut voir des personnes qui boivent des énormes pots avec trois poignées de sauge dedans, alors que la sauge à forte dose c'est toxique, et ça peut provoquer des palpitations et de l'hypertension. Ou alors des gens qui boivent beaucoup de millepertuis, alors que le millepertuis c'est un antidépresseur, et que ça passerait jamais dans la tête de ces mêmes personnes de prendre des antidépresseurs sans prescription, sans contrôle des dosages, etc. Et du coup, par exemple, c'est des questions qui se posent pas, parce que la plante, eh ben, c'est pas censé être quelque chose de dangereux. Du coup, ça, c'est une des manières, et je le vois aussi à travers la phytothérapie commercialisée. On trouve les mêmes médicaments dans des magasins bio ou Nature et Santé ou des choses comme ça, et dans les pharmacies. Et qu'on peut prendre comme ça, on les achète sans ordonnance. Si on a des conseils, si on est conseillé pour ces médicaments-là, on est conseillé par des publicités et absolument pas par des médecins ou par des personnes qui s'y connaissent. Et c'est là où je vois un décalage et en fait tout un système de croyances autour de ces médicaments-là, où à un moment... on ne prend pas ces médicaments-là en connaissance de cause, en connaissance de son corps, de ses symptômes en connaissance de remède. On prend ces médicaments-là parce qu'on a une croyance, et cette croyance, elle vient hyper souvent de publicité, en fait, et ça, je trouve ça super dangereux.
Et peut-être aussi revenir sur la question du soin et des femmes. Là, toi, tu disais, Anaïs, bon, ben voilà, il y a les magazines féminins où les femmes sont appelées à soigner et tout. Alors, je trouve qu'il y a une ambivalence là-dedans, parce que moi, j'ai aussi comme impression et comme analyse qu'en fait, les femmes, elles sont surtout destinées à soigner les autres plutôt qu'à se soigner elles-mêmes. Alors, je vois bien ce courant-là où il faut prendre soin de soi, faire du yoga et tout ça, machin, aller dans des spas, mais c'est surtout pour être belle et avoir la peau ferme plutôt que pour faire attention. Enfin, j'ai l'impression que la plupart... j'en sais rien, j'ai pas fait d'études démographiques ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui se retrouve dans la vie des femmes, de pas avoir le temps de prendre soin d'elles et de leur santé, parce qu'il y a les mômes, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a plein de choses. Donc cette ambivalence-là, je la trouve finalement encore plus terrible.
Mais ouais, et du coup, en plus, c'est toujours la même chose. C'est en ce moment, à la Fnac et compagnie, les livres les plus vendus, c'est le bien-être. Et ce truc de... Donc, et c'est les femmes qui achètent ça. Et c'est toujours ce truc de réponse individuelle à un problème de société, en fait. Pourquoi on cherche du bien-être ? Parce que peut-être qu'on se sent mal quelque part. Et donc là, on nous propose un stage de bien-être, de yoga, de réflexion, de, etc. Sauf que du coup, c'est finalement encore du soin. Enfin, que finalement, on médicalise encore, même si c'est pas de la médecine pure. Donc, une réponse individuelle pour une personne, pour qu'elle se sente bien, au lieu de remettre en cause peut-être que en fait c'est son travail qui la saoule, c'est ses enfants, c'est son mari, c'est... Et du coup, là encore, il y a un problème dans le mot alternatif, quoi. Enfin, il y a d'un point de vue politique, moi ça me pose question.
Mais moi, ça me donne envie de rebondir par rapport à la question des femmes, où toujours on parle de leur bien-être et tout ça. Enfin, le bien-être, c'est vachement dirigé vers les femmes, mais c'est un bien-être que je trouve très normatif et dans un truc assez... Le bien-être, en fait, c'est avoir un joli corps svelte et élancé, avec des jolis cheveux longs, une peau sans rides et avec des jolies couleurs. Alors... Et que du coup ça me donne envie de faire un parallèle avec du coup l'invitée qui n'est pas venue, qui nous a laissé quand même des notes, et puis moi j'ai eu une discussion assez longue avec elle sur ces questions là et elle est infirmière à la base et elle faisait du maintien à domicile, elle voyait beaucoup de femmes du coup au foyer dans les personnes qu'elle soignait, et elle disait mais c'est hallucinant, les femmes elles prennent des antidouleurs pour des sciatiques, elles auront jamais d'arrêt de travail parce que c'est des femmes au foyer, elles vont continuer à faire tous les boulots qui leur bousillent le dos et elles vont jamais avoir d'arrêt de travail, elles vont jamais rien avoir qui pourrait changer leur mode de vie pour pouvoir arrêter d'avoir mal au dos, elles vont juste prendre des piqûres d'antidouleurs tous les jours, et elle faisait ces piqûres d'antidouleurs à ces femmes juste en leur disant mais arrêtez en fait. Et elle lit aussi vachement un rapport de classe, en fait, là-dedans, parce que c'est pas n'importe quelle personne qui sont femmes au foyer, c'est pas n'importe quelle personne qui ont pas de femme de ménage ou de personnel pour entretenir la maison, etc. Et puis voilà, il y a les personnes qui travaillent pour entretenir la maison des autres, tout ça. Du coup, moi, je trouvais ça assez intéressant comment la femme, justement, elle avait cette position de soignante ou d'entretien du foyer. Elle soigne ses enfants, elle soigne son mari, elle prend soin des gens autour d'elle. Mais elle prend soin d'elle que... Enfin, quand on la pousse à prendre soin d'elle, c'est dans des questions d'apparence, en fait, et pas dans des questions de santé. Et le bien-être des femmes, j'ai l'impression que c'est vachement plus des questions d'apparence que des questions de santé.
Ou alors... pour prévenir et pour préserver les facultés de reproduction. Alors là, c'est du sérieux. Non, c'est sur ça, c'est du sérieux. Et sur ça, il faut faire attention.
Ah oui, d'ailleurs, dans la pub du magazine, c'était la procréation médicalisée.
Voilà. Non mais c'est vrai. Sérieusement, dès qu'il s'agit de, par exemple, les infections sexuellement transmissibles, il y en a certaines qui sont assez bénignes. Sauf que, en dégénérant, elles peuvent donner des trucs de stérilité. Et c'est là qu'elles deviennent graves. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le domaine dans lequel les femmes se doivent, et c'est leur devoir, je pense, c'est présenté comme tel, de faire attention à leur santé, c'est leur capacité de procréation, quoi. Je crois, hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse.
Peut-être on peut écouter un autre morceau de musique maintenant.
Ouais.
Ça fait déjà un temps qu'on parle.
Ouais. Et ben, on peut vous faire écouter un morceau de musique des Revengers. Alors, les Revengers, c'est un groupe de copines de Grenoble. Ça fait déjà plusieurs années qu'elles font de la musique, qu'elles font des concerts, qu'elles sortent des CD. Et là, elles viennent de sortir un nouvel album, donc qui est autoproduit, qui se trouve plutôt dans les réseaux de distribution
DIY.
Voilà, elles réclament du DIY, do it yourself, c'est-à-dire qu'elles ont tout fait elles-mêmes, la pochette, l'enregistrement. Elles sont pas passées par une boîte de production, quoi. Voilà, elles sont indépendantes et autonomes, mais elles ont plein d'amis avec qui elles ont fait ce truc-là. Ils se trouvent aussi sur internet, donc c'est The Revengers. Voilà, si vous cherchez, vous pouvez aussi télécharger leurs chansons sur internet. Et donc, on a choisi un des morceaux de ce nouvel album qui s'appelle Maison de retraite autogérée.
bonsoir. Alors, vous êtes toujours sur Radio Kaléidoscope avec l'émission Dégenrée, l'émission féministe pour déranger. Et ce soir, on parle de la médecine, du rapport à la santé qu'ont les femmes et plus généralement du rapport à la santé. Et on vient de discuter des médecines alternatives, de s'interroger sur la question des médecines alternatives et aussi du rapport qu'ont les femmes à la santé, au bien-être, etc. Et maintenant, on va enchaîner plus avec la question de l'automédication.
Alors moi, il y a quelque chose qui m'interrogeait, c'était que dans tout le rayon des médecines alternatives, j'étais vraiment intéressée par une espèce de démarche autonome, comme ça qu'on pouvait avoir. Et j'ai l'impression que ces dernières années, en fait, il apparaît plus que la récupération par les industries, par les médias, tout ça, de toutes ces médecines dites alternatives, eh bien, ça nous pousse à nous trouver dans une position passive de consommation. Et du coup, j'ai l'impression que ça complique un peu, ou en tout cas que ça essaye d'effacer des démarches plus autonomes dans le soin.
Moi, je suis assez d'accord avec ça et ça m'interroge aussi sur des questions de temps, en fait, de comment dans ce monde on a le temps, en fait, d'écouter son corps, de le comprendre, de le connaître. Et voilà, et je peux aussi enchaîner sur notre invitée fantôme, elle me racontait que, elle, quand elle était jeune, parce que voilà, elle a plus de 50 piges, elle me racontait que quand elle était jeune, à l'école, elle avait des cours sur les maladies et sur les symptômes. Et elle disait, c'était assez craignos parce que juste les filles, on avait des cours sur les maladies et c'était pour soigner nos futurs enfants. Et les garçons, ils avaient des cours de mécanique. Elle disait, mais en même temps, on avait une connaissance du corps, en fait. On connaissait les os, on connaissait le système sanguin, on connaissait un certain nombre de maladies, un certain nombre de soins d'urgence et les symptômes. Et elle dit, ça, pour elle, en tout cas, elle trouve que c'est un manque dans notre société, ces connaissances-là. Mais qu'elle aimerait bien que ce soit pour tout le monde, quoi, pas que pour les filles.
Oui, moi, j'ai l'impression que j'ai vécu, en fait, petite dans une famille où mes parents étaient très médecine alternative, etc. Et ce qui m'a marqué là-dedans, c'était le fait, en fait, qu'ils avaient appris des connaissances, en fait, en matière de santé. Et moi, ce que j'ai retenu qui m'intéressait, c'était aussi le fait d'avoir le choix de voir différents types de médecine, et pas juste deux d'ailleurs, et d'après d'aller vers des médecins, ou de moi chercher aussi des choses en fait qui me correspondaient. Et par rapport aux discussions sur la récupération des médecines dites alternatives, alors maintenant, moi, je suis moins au courant, en fait, des choses qui se passent, mais j'ai l'impression d'un côté, il y a de la récupération. Et sur certaines choses qui amèneraient plus d'autonomie des gens, eh ben, il y a encore, en fait, un système de répression, en fait, qui existe. Où ces derniers temps, j'ai plus vu par rapport au fait au niveau des jardins, sur le fait de traiter les plantes en fait avec des plantes, où de plus en plus il y a des interdictions, etc.
Tu peux être plus précise, vous donner un exemple. Je crois qu'il y avait l'histoire du purin d'ortie.
Par exemple, il y a eu l'histoire du purin d'ortie où ils voulaient l'interdire ou des choses comme ça. Et pour moi, ça va dans les mêmes démarches qu'à un moment, des démarches d'autonomisation des gens. Il y a certaines où il va y avoir de la répression. Et je trouve dans la médecine alternative, il y a des choses qui sont très promues, c'est d'acheter des médicaments tout faits, tout préparés, etc. Ou même des plantes toutes préparées, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a
en parallèle,
au niveau plus que les gens réfléchissent sur leur santé de manière globale ou de voir différentes choses et de faire des choix, qu'il y a une répression. Et qu'aussi cette répression, moi j'ai l'impression, enfin moi m'a amené, et je vois d'autres gens aussi, après à réfléchir d'une manière binaire, en fait. Il y a les choses bonnes, il y a les choses mauvaises, la médecine dite allopathique, tout est mauvais, etc.
Sur la répression, je pense que c'est une conséquence de décisions en amont, mais tu vois, par exemple, pour le purin d'ortie, Ils ont interdit la vente de purin d'ortie parce qu'il y a une formule, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas parce que c'est une plante que c'est bon. Et du coup, le purin d'ortie, ça amène de l'azote, et si on surdose de quelque chose qui amène de l'azote dans le sol, on pollue en fait. Et donc il y avait le problème de, en effet, chacun veut faire, ok, sauf que du coup, comment faire pour que ça se passe bien et pour éviter des pollutions, etc. Et donc pour pareil pour la médecine par les plantes, c'est comment faire pour que on fasse pas n'importe quoi et que on prenne justement 50 tasses de sauge et que du coup on y reste.
Mais moi, la question de la répression, je la trouve vraiment plus large que des systèmes avec des lois, etc. Et je crois là-dessus, j'ai envie de raconter une histoire plus personnelle où, par exemple, pour moi, c'est aussi comment on nous normalise dans des systèmes. Par exemple, on doit aller voir une gynécologue tous les ans. Et moi, cette année, je suis allée voir une gynécologue et ça faisait 6 ans que j'étais pas allée. Et j'étais allée qu'une fois dans ma vie. Et elle était vraiment affolée, quoi. Elle disait, mais... J'ai vraiment eu l'impression d'être considérée comme quelqu'un qui prend pas soin de son corps, qui s'en fout complètement, etc. Et alors que, en fait, c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi ça le système répressif, c'est un moment nous dire, mais en fait, vous êtes de la merde, vous faites pas attention à vous parce que vous allez pas avoir un spécialiste. Alors que, et par exemple, c'était là ce qu'elle me disait, mais c'est important, le cancer du sein, la palpation, blablabla. Et alors que moi, je fais attention, en fait, et j'ai l'impression d'être dans l'observation de mon corps justement pour. J'ai appris, etc., pour être dans un système d'autonomie et pour arriver à détecter des choses sans l'aide d'un médecin. Et du coup, je trouve que le système répressif, il est beaucoup plus large, en fait, qu'un système de loi. Mais c'est tout un système de normalisation, je trouve.
Ou, par exemple, moi, ce que j'ai vécu par rapport à la répression, où à un moment, il y avait vraiment le fait d'avoir peur des sectes, etc. Enfin, où c'était un peu la folie en France. Et par exemple, les médecins avaient reçu une liste où ils devaient signaler tous les patients qui avaient, où il y a une liste de critères, où dedans il y avait manger végétarien, pas avoir de télé, soigner avec des plantes, etc. Et au juste, moi, je correspondais complètement à ça, en fait. Et je corresponds toujours complètement à ça. Et où,
Parce que tu es dans une secte. Non, justement.
Non. et où moi, je l'ai vécu, en fait, sous cette forme-là, par exemple, la répression. À un moment, effectivement, des systèmes, des modes de vie, la stigmatisation et des modes de vie différents suffisaient, voilà, de rentrer dans 5 critères, quoi. Et aussi, du coup, des modes de vie qui ne correspondent pas à de fortes consommations, quoi. De ne pas regarder la télé 24 heures sur 24 ou des choses comme ça. Et directement, j'ai l'impression que soit j'étais manipulée mentalement par des gens, enfin, qu'on me renvoyait ça, soit que j'étais dangereux pour moi, que mes parents étaient dangereux pour leurs enfants et avec la menace de la DAS de placer des enfants ou des choses comme ça qui arrivaient assez vite, quoi.
Des choses assez graves quand même, du coup. Enfin, là, c'est pas, c'est une vraie répression, quoi.
Moi, je voulais revenir sur ce que Ernest disait sur, par exemple, l'obligation d'aller voir une gynéco tous les ans, etc. La dernière fois, j'avais une copine qui est médecin à la maison et qui me racontait justement l'aberration des contrôles réguliers, en fait, par exemple pour le cancer du sein ou pour les détections super précoces. Elle me disait que le coût, enfin, ça risquait dans quelques années, en fait, de développer plus de cancers que ça n'en prévient, parce que les mammographies, en fait, c'est de la radiation, enfin, c'est des radios, quoi. Et elle me disait l'aberration que c'était, quoi. Mmh. Mais alors, elle est médecin, du coup, elle était partagée entre les deux, parce que. Elle voyait bien le problème que ça posait, quoi.
Bah, l'envie de prévenir et de détecter les cancers le plus tôt possible pour quand même
pouvoir soigner,
pouvoir soigner les personnes et les risques. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être là aussi le développement de l'auto-examen des seins, c'est là que ça a son sens en fait aussi.
Mais ouais, moi ça me fait complètement penser à un ami là, il a pas eu de sécurité sociale pendant hyper longtemps. Alors là, il vient d'enfin avoir une CMU. Alors il est content, il est allé faire un check-up chez un médecin qui a dit bon ben un check-up, bon ben vous allez aller faire une radio des poumons. Alors lui il a dit oui, et puis il m'a raconté ça. Et je lui dis mais quoi, tu vas aller faire une radio des poumons? Et il me dit bah oui, c'est le médecin qui me l'a dit. Je fais mais pourquoi en fait? Et il me dit bah c'est le médecin qui me l'a dit. Et je lui dis mais en fait tu te rends compte, une radio c'est des rayons X en fait. Tu fumes pas, t'as pas d'asthme, tu tousses pas, t'es pas malade des poumons. A priori t'as aucun problème, ça se sent quand même un problème aux poumons. Enfin, voilà, on sent des pertes de souffle ou n'importe quoi. Et je dis, là, tu vas aller te foutre des rayons X dans les poumons, qui est quand même une partie du corps qui peut être facilement atteinte par un cancer. Et les rayons X, c'est cancérigène, en fait. C'est un des premiers facteurs cancérigènes. Et je dis, mais pourquoi, en fait, tu refuses pas? Tu dis pas, même, oui, je garde pas cette ordonnance, j'y vais pas. Parce que de quoi t'as peur, en fait? C'est quoi ta peur autour de la maladie pour vouloir aller, à un moment, se prendre des rayons X, alors qu'a priori, t'as aucun problème, quoi. Et du coup, augmenter les risques de maladie, au final.
Oui, je crois que d'ailleurs, d'après ce que j'essaye de faire, un des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour m'autonomiser par rapport à ces médecins, en fait, c'est refuser cette espèce d'autorité en fait médicale. Je me dis bon, c'est un médecin, ok, il a beaucoup plus de connaissances que moi, etc. Sauf que c'est limité, il y a un nombre de connaissances illimité, c'est très dur. Et du coup, juste se dire, se rappeler que la médecine qu'on nous propose, elle n'a pas réponse à tout. Et du coup, juste demander des comptes à un médecin, lui dire, bah, ok, vous m'envoyez faire une radio, mais pourquoi il y a des causes, etc. En fait, arrêter de dire amen à chaque fois. Déjà, ça, je trouve que c'est une énorme prise d'autonomie, rien que de demander des comptes à la personne qu'on a en face de soi, qui est un être humain comme tout le monde, quoi. Enfin...
Mais moi, ça me pose d'autres questions. Ça me pose aussi la question de comment, par exemple, plein de personnes, elles travaillent dans la vie et que si elles sont malades, si elles ont un problème de santé, pour avoir un arrêt de travail, elles sont obligées d'aller chez le médecin, en fait. Du coup, dans certains modes de vie, j'ai l'impression qu'on peut se passer d'aller voir le médecin, mais il y a plein de personnes, juste si elles ont un problème, elles iront forcément voir le médecin pour pouvoir avoir un arrêt de travail, pour pouvoir, ou à un truc scolaire ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, le médecin va dire « Ah ben, prenez ces médicaments-là, ces médicaments-là, ces médicaments-là. » Et puis, du coup, c'est aussi comment le fait d'avoir besoin d'arrêt de travail, et ben, c'est aussi un truc de perte d'autonomie. Et ben, ça nous met dans un enchaînement, en fait, médical.
Mais c'est aussi, c'est pas juste qu'elle va chez le médecin pour un arrêt de travail, c'est aussi qu'il faut qu'elle puisse travailler le lendemain. Donc elle prend des médicaments qui t'assomment, alors que, je sais pas, par exemple, une sinusite, une petite sinusite classique, il y a besoin de repos. Et ok, si c'est pas passé dans la semaine, là, faut que tu ailles voir le médecin, ou si tu as des signes de mal de tête particulier, etc. Mais il y a des choses juste où faut rester au lit, prendre soin de soi, se poser, parce que justement on a peut-être un peu trop travaillé, et que quand tu travailles et que t'es salarié, ben ça c'est plus possible, quoi.
Mais que pour pouvoir rester au lit, il faut un arrêt de travail, et du coup c'est l'enchaînement.
Faut faire la gueule, quoi, à un moment donné.
Transition.
Ah ouais, bon, allez, on va écouter un petit morceau d'Anne Sylvestre, cette fois, qui nous parle d'une meuf qui faisait la gueule, quoi.
Quand elle naquit, c'était déjà un bébé qui ne rigolait pas. Et quand les autres nourrissons poussaient toutes sortes de sons, elle fronçait les sourcils et plissant d'un air indécis son nez légué par un aïeul, elle faisait la gueule. À l'école, elle ne sut jamais sourire quand il le fallait. Elle ignorait superbement les sanglots, les gémissements qui tiennent lieu de contrition. Et quand en guise de punition, on l'envoyait sous les tilleuls, elle faisait la gueule. Amoureuse, elle essaya bien d'avoir la tête qui convient. Séduire, elle connaissait pas ça, chez les sœurs on vous l'apprend pas. Et qu'en frémissant de désir, elle était prête à défaillir, éperdue comme un épagneul, elle faisait la gueule. Elle eut comme tout un chacun des maladies, des coups de chien. Au lieu de pleurer comme un veau quand on la coupa en morceaux, au lieu d'offrir aux visiteurs un visage noyé de pleurs devant leur bouquet de glaïeul, elle faisait la gueule. Elle eut aussi, c'était fatal, des amours qui finissaient mal. Elle tenait enfin l'occasion de s'épancher dans le giron d'un psy, d'être blessée, stressée, d'être suicidaire, angoissée. Non, quand elle s'est retrouvée seule, elle faisait la gueule. Somme toute, elle aura passé sa vie sans larmes décoincées, c'est du moins ce qu'on en dira. Et quand son heure sonnera, malgré les chagrins, les blessures et les regrets, soyez-en sûrs, mal fagotée dans son linceul, elle fera la gueule.
Toujours sur Dégenré, sur Radio Kaléidoscope 97 FM, donc ce soir un débat sur la médecine, la santé, comment on se retrouve dans tout ça, qu'est-ce qu'on en pense. Et donc il y a Colline qui nous a rejoint sur le plateau, tandis que Siam fait le clown avec une tête de dinosaure. Ça vous pouvez pas le voir, c'est dommage, vous loupez les coulisses de Dégenré. Colline, tu nous as rejoint sur le plateau parce que tu avais un truc à nous dire, ça te démangeait là.
Oui, un petit peu. En fait, je trouve la discussion super intéressante et en fait, ça me faisait penser à plein de choses, tout ce qui s'est dit, et notamment à la question d'éducation, sur comment on est éduqué, sur se réapproprier des savoirs qui ont toujours existé, notamment au niveau des plantes, plutôt que de diaboliser par exemple le purin d'ortie, savoir l'utiliser, apprendre à l'utiliser. Et il y a des gens des personnes qui sont spécialistes, et si ces savoirs pouvaient être transmis et de façon facile et pas juste gardés dans un truc d'entre-soi, de spécialiste ou de je sais quoi. On pourrait justement du coup se réapproprier ses savoirs et ses connaissances, du coup se réapproprier ce que Claire disait aussi, se réapproprier son corps, les connaissances de son corps, et donc tous ces savoirs et ces pratiques, en fait on serait moins dans ce qu'on est dans cette société, c'est-à-dire complètement dicté, surmédicalisé, et où on perd un peu la prise sur nos vies, en fait, complètement. À chaque fois, c'est un médecin qui nous dit comment on doit se soigner, et du coup, on prend le médicament sans regarder. Et notamment, c'est ce qui s'est passé cette semaine avec moi, où je demandais des vitamines pour mes pertes de cheveux, parce que faut savoir qu'après un accouchement, on perd horriblement ses cheveux. Et c'est terrible, on n'en finit plus de perdre ses cheveux. Et du coup, je me suis dit...
On ne nous le dit pas, ça, quand on nous dit qu'il faut
qu'on
fasse des bébés.
Il y a plein de choses qu'on ne dit pas, c'est horrible. Et du coup, j'en avais vraiment marre, parce que ça fait un peu 6 mois maintenant. Donc, j'allais voir un médecin en me disant, voilà, elle va peut-être me dire un truc, voilà, super. Et en effet, elle me donne des vitamines qui ne sont pas remboursées et qui coûtent super cher, donc que j'ai acheté. Mais en rentrant, j'ai quand même eu la bonne idée de regarder ce qu'il y avait écrit. Et il y avait écrit qu'il fallait surtout pas prendre ses vitamines quand on allaitait. Ah. Et la médecin, elle savait que j'allaitais. J'avais précisé quand même. Et du coup, je l'ai rappelée et elle m'a dit « Ah, ne les prenez pas, prenez quand vous n'allaiterez plus. » Elle dit c'est pas très dangereux, mais du coup c'est pas très bon, il y aura surdosage de vitamines, nanana. Et pareil, le fait d'être végane, du coup ça pose, enfin je mens pas au médecin, je le dis, enfin parce que je pense que je suis assez réfléchie dans mon régime, en tout cas je fais super attention et à ce que je mange et comment j'associe les aliments, tout ça. Et les véganes ont souvent des carences de B12. Et la B12, il peut pas y avoir de surdosage si on s'informe un peu sur cette vitamine. Et la première chose qu'elle m'a dit, cette médecin, c'est comme j'ai fait une prise de sang pour voir un peu où j'en étais, elle me dit vous avez un taux assez élevé, donc faut faire attention au surdosage. Donc bon, j'ai pas trop relevé, j'ai dit bon, ouais, c'est pas grave, c'est pas la première. Et pareil, elle disait donc de plus prendre la vitamine B12, de la prendre qu'une fois tous les 2 mois, sauf que quand on est végane, l'idéal c'est quand même de la prendre au moins une fois tous les 10 jours. Là, je la prenais tous les jours parce que un bébé qu'on allaite ou pendant la grossesse, faut savoir que la B12, elle prend sur les apports quotidiens et pas sur...
Mais ce que tu veux dire du coup, c'est que t'es tombée sur une médecin qui était pas très compétente,
qui était moins informée que toi, quoi.
Ouais, mais je pense que sur le véganisme, il y a très très peu de médecins compétents.
Mais ils sont pas au-dessus de la société, hein. Voilà, la société est pas. Ouais.
Je pense qu'il faut démystifier les médecins, en fait. Mm. C'est qu'il y a des pratiques qu'ils connaissent moins, quoi.
En tout cas, sur ça, c'est à chaque fois que j'ai rencontré des médecins, c'est vrai que...
Mais c'est sur tout ce qui sort, sur tout ce qui sort de la norme. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait d'examens gynéco, les lesbiennes peuvent en témoigner. Je veux dire, c'est hyper chaud. Tu vas chez la gynéco, tu dois la former. Elle s'y connaît rien. Non, mais j'en parle comme une généralité, parce que c'en est une. Les gynécologues ne sont pas formés pour ausculter des femmes lesbiennes qui ont de la sexualité qu'avec des femmes, et du coup elles sont pétries de leurs préjugés, de ce qu'elles en pensent, et toi t'arrives là et tu dois les former, tu dois leur dire mais c'est pas parce que je suis lesbienne que je suis vierge, c'est pas parce que enfin, bon, tout un tas de trucs, et c'est chiant, mais je crois qu'il faut qu'on se le dise, les médecins sont pas au-dessus de la société, ils représentent la société, quoi. Donc elles seront pas compétentes sur des régimes spécifiques comme le végétalisme, pas compétentes sur des sexualités un peu comment ?
La transsexualité.
La transsexualité, n'en parlons pas, j'imagine. Bon voilà, je pense effectivement sur ça, et je pense que sur ces questions-là, je suis pas sûre que les médecins alternatifs ou je sais pas quoi soit moins pétri de tous les stéréotypes et de tout, par exemple, sur la question du genre, et on en parlait tout à l'heure, quoi.
Mais après, je trouve le problème, c'est que moi, je suis prête à, sur certains sujets, d'informer les médecins ou de les former, mais souvent, en fait, eux, ils refusent et ils disent que, enfin, s'ils connaissent tout par rapport à. Enfin, voilà. Au végétalisme, ou par rapport, si tu dis, ben voilà, moi j'ai suivi une formation et je sais que tel IST, j'ai des risques en étant lesbienne, et ben qu'ils vont t'assurer le contraire, et après, mais c'est sûr, tu retournes pas chez la gynéco. Et 5 ans après, quand tu y retourneras, et ben tu te feras engueuler comme quoi tu y retournes pas tous les ans. Et effectivement, moi, ce problème-là, je l'ai rencontré. Chez différents médecins avec différentes pratiques, quoi. Et par exemple, moi, j'ai choisi mon médecin qui est un médecin dit allopathique parce que, elle écoute, quoi. Et voilà, et c'est pas mon mode de médecine préféré, mais vu que moi, je peux discuter avec elle et qu'on peut réfléchir ensemble aux choses, et quand je dis là, vraiment, j'ai mal à tel endroit et tout. Elle sait pas ce que j'ai, mais au moins elle me dit pas que j'ai rien, et juste ça, et ben pour moi c'est le plus important.
Elle te dit pas, mais c'est pas grave.
Oui, enfin, voilà.
De toute façon, vous avez mal, c'est comme ça.
Oui, ou c'est le stress. Et puis point barre. À un moment, j'ai mal et je veux avancer en fait dans cette douleur.
Moi, la dernière histoire que j'ai avec ça, c'est chez l'oculiste, vous voyez. Alors, je suis en train de regarder les petites lettres, et puis il me cache un œil, et puis je dis, oh ben je vois double. Il me dit, c'est pas possible, vous pouvez pas voir double avec un seul œil. Mais je voyais vraiment double, en fait. Du coup, voilà, j'ai fait, bon, bah d'accord, je vois pas double. Je verrais toujours mieux avec mes lunettes que sans mes lunettes, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai vraiment...
Il a nié ta réalité, en fait.
Ouais, et puis à un moment, j'étais tellement... Ça m'a complètement bloqué, quoi. J'ai pas su répondre parce que je m'y attendais tellement pas à ce qu'il me dise ça, à qui il écoute pas ce qui se passait, quoi, avec mes yeux. Enfin, c'était fou.
Mais alors, le risque, là, pour revenir un peu à notre sujet de départ, c'est que si les consultations, si les vécus par rapport aux médecins sont aussi désagréables, bah effectivement, ce que ça donne, ça fait qu'on retourne pas chez la gynéco parce que juste ça a été trop chiant, en fait, de devoir se justifier, de devoir d'avoir l'impression que la personne en face, elle va pas bien nous soigner, ou je sais pas. Donc on perd confiance, donc on n'y va plus. Donc on peut être intéressé là. On peut se dire, bah, qu'est-ce que je vais trouver d'autre chose? Je veux trouver autre chose, parce que je veux quand même prendre soin de moi. J'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'être... Donc je vais m'intéresser aux alternatives. Et moi, j'en arrive un peu à un des sujets que j'avais envie de parler ce soir. C'est, et on parlait tout à l'heure d'automédication, mais c'est en fait, comment s'y retrouver? Parce que moi, je me dis bien qu'il y a des trucs, c'est des charlatans, il y a des trucs, c'est de l'arnaque... Et en même temps, il y a des trucs que j'ai envie d'y croire. Il y a des trucs qu'on me l'a dit depuis que je suis toute petite, c'est ma grand-mère qui le faisait. Alors j'y crois parce que c'était ma grand-mère, quoi. Et que c'est pas pour rien si ça fait 200 ans que ça marche. C'est que ça marche. Enfin, et en même temps, après, je croise d'autres gens qui me disent « Mais non, c'est pas vrai, c'est placebo. » Enfin, vous voyez, toutes ces espèces de trucs-là où moi, j'ai pas envie... Enfin, j'ai pas envie qu'on en discute ensemble. Là. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on s'y retrouve? Et parce que oui, moi je crois que c'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'effectivement il y a bien un truc qui est vrai, c'est que là il y a quelque chose qui nous va pas avec la médecine dite allopathique, quelque chose qui ne répond pas à nos attentes, soit parce qu'on nous dit vous avez mal, Vous avez mal au dos? Ben, c'est normal. Merci. Au revoir. J'ai mal au dos, c'est normal. Enfin, on a besoin de trouver autre chose. Alors quoi? Et comment on s'y retrouve là-dedans? J'avais un peu envie d'avoir vos points de vue. Je sais pas, Anaïs, t'avais envie de parler, je crois.
Je crois que c'est complexe, quoi. Je pense que ça imbrique un tas de choses. Bah, déjà, un changement de société. C'est un peu gros à faire
c'est
maintenant,
facile,
tout
ça,
de suite.
Voilà.
Mais il y a des copines qui le font, par exemple, qui essayent de changer les mentalités en fac de médecine, par exemple. Changer les contenus. Il y a une assoce de médecins indépendants qui s'est créée, qui s'appelle Formindep aussi. Et donc... ça, c'est super, c'est très important parce qu'ils déclarent s'ils ont le moins de conflits d'intérêts avec, par exemple, une industrie, etc. Enfin, donc, eux, ils n'en ont pas, évidemment. Mais donc, là-dessus, on peut aller chercher pas mal d'infos. Moi, pendant toute l'histoire de la grippe, là, j'étais allée regarder chez ces gens-là parce qu'ils amenaient le pour le contre toutes les imbrications de ce qui se passait. Je pense qu'il faut aller chercher des infos soi-même aussi. Et enfin, moi, je suis plutôt pour faire bouger les choses, améliorer ce système de santé, se battre pour continuer à l'avoir, parce que mine de rien, c'est. Enfin, je suis plutôt pour la défense des services publics, on va dire. Donc, du coup, aussi contribuer à les améliorer. Et à côté, il faut bien trouver des façons de nous s'y retrouver, avancer maintenant tout de suite, parce que ça, c'est une idée globale. Et je pense qu'en effet, ça vient par la connaissance. Enfin, alors, évidemment, on n'a pas le temps d'aller, à chaque fois qu'on a un problème, de plancher 6 heures sur pourquoi j'ai ça, comment ça se développe, etc., quelles sont les solutions. Mais on peut trouver des gens qui s'y connaissent mieux que nous, on peut trouver des avis, on peut trouver... ça se trouve, quoi. Et je pense aussi, ça vient, comme tu disais, Colline, sur l'éducation. Par exemple, si, quand on était gamin, on nous disait, écoute, tu sais, 8 maladies sur 9, elles se guérissent toutes seules. Tu prends un médicament, en 7 jours, t'es guéri, tu prends rien, en 7 jours, t'es guéri. Déjà, là, t'aurais déjà un peu plus de recul par rapport à tes attentes quand tu vas chez le médecin et que t'as un rhume et que t'as quelque chose, quoi. Donc, c'est plein de petits gestes quotidiens qu'il faut qu'on apprenne, quoi. Et voilà, croiser les sources, parce qu'en effet, des fois, du coup, on se perd quand on commence à trouver à chercher des alternatives. On sait plus où donner de la tête, quoi. Parce qu'il y en a... Vous allez sur des forums, on a tout ce qu'on veut, quoi. Et donc, apprendre à croiser les sources. Et je crois que ça se joue dans l'éducation, ouais, dans la pensée critique.
Ben ouais, moi je crois que ça me donne envie de continuer sur la question des placebos. Quand on nous dit « Ah, mais ça, c'est un placebo, ça marche pas. »
Justement,
mais en
ça
fait,
marche.
La définition du placebo, c'est que ça marche, et sans vraiment d'explication. Et que, en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment, quand on regarde... il y a beaucoup de médicaments qui sont des placebos, et que à plein de moments la maladie c'est aussi un besoin de se poser, un besoin de repos, et que c'est des réactions du corps pour un stop, quoi, un appel au secours ou quelque chose comme ça, et que avec et que voilà, à un moment, et ben ça peut aider psychologiquement de prendre quelque chose, et que aussi il y a beaucoup de maladies, c'est de la somatisation. Et
qu'est-ce que ça veut dire, la somatisation?
Que c'est une réactivité du corps. Comment ils disent dans les bouquins là que je présentais au début, ils disent c'est un peu une révolte du corps contre ce qui se passe autour et ce qui se passe dans la tête de la personne. Et par exemple une révolte par rapport aux conditions de travail, par rapport à du stress, enfin plein de choses comme ça. Et à un moment, moi j'ai envie de dire, mais en fait ben oui, on a des croyances, oui, il y a plein de choses qui sont des placebos, mais en fait, si ça nous soigne, quoi. Si le fait d'avoir un marron dans la poche, ça soigne nos hémorroïdes, c'est quoi le problème, en fait? Je vais pas aller prendre... Mais oui, ça marche hyper bien. Je l'ai fait tester à plein de gens, je le teste moi-même. Le marron dans la poche contre les hémorroïdes, ça marche, quoi, dans la demi-heure.
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ben oui, mais c'est fou, hein. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, même des personnes qui croient pas aux méthodes de grand-mère. Cette méthode de grand-mère, c'est la méthode du docteur Tao. Il dit qu'il faut mettre des sangsues sur les hémorroïdes, mais qu'un marron dans la poche suffit.
Mais dans quelle poche?
Amplement.
Excuse-moi.
Dans la poche gauche. Dans la poche du pantalon, je sais pas. Non, mais il y a plein de choses comme comme ça, à un moment, je me dis, mais en fait, oui, c'est des méthodes de grand-mère, oui, c'est des tisanes, a priori, leur effet, il est hyper faible parce que les quantités de matière active, elles sont hyper limitées, mais à un moment, si ça fait du bien et si, a priori, ça peut pas faire de mal, ben, je vois pas pourquoi on s'empêcherait de les prendre, en fait.
Ouais, après, moi, je crois que la question, elle est de faire son choix en connaissance de cause. Et c'est prendre un placebo en sachant que c'est un placebo. Et c'est pas. Du coup, placebo, ça marche sur moi, mais ça marchera pas forcément sur mon voisin. Et du coup, donner quelque chose et dire tiens, ça marche, c'est limite dans le sens où tu vas proposer, ça marche sur toi, en fait. Et c'est là où je vois la limite. La limite de ça, enfin, je sais pas de quoi d'ailleurs, mais de ce truc. Je trouve ça super, moi, ce que je fais, c'est pareil, je prends une tisane quand j'ai mal à la gorge, hop, je me mets dans ma couette et ça va mieux, quoi. Et je sais que c'est l'effet placebo. Du coup, je fais mon truc en sachant que ça va marcher sur moi maintenant parce que j'en ai besoin, etc. Mais la personne qui est à côté de moi, je ne sais pas exactement ce qu'elle a comme maladie, si elle est vraiment malade comme moi. Si, vu que je sais que je fais ça pour mon bien-être, est-ce que ça va marcher pour elle ? C'est toujours ça que ça implique, c'est quand est-ce qu'on peut se permettre de proposer quelque chose à quelqu'un en disant « tiens, ça marche ».
Mais en même temps, je trouve ça compliqué ce que tu dis parce que du coup, il faut bien qu'on... Tu parlais de formation tout à l'heure, tu parlais de circulation des informations. Moi, je suis quand même bien contente que quelqu'un m'ait dit « ah, tu sais, le fenouil, c'est bon, après un repas où t'as mal au bide, c'est cool, ça va peut-être te faire du bien. » Et sinon, je n'aurais pas pensé de moi-même. Je suis bien contente qu'on me l'ait dit. Après, je l'ai testé, effectivement, ça a marché sur moi et j'en suis contente et peut-être que je le conseillerais. Dans ce que tu dis, je trouve étrange ce truc de... Ok, je peux pas assurer que ça marchera sur tout le monde, n'empêche qu'il faut bien que les informations elles circulent. Donc à un moment donné, il faut bien que quelqu'un me l'ait dit ou quoi.
Mais oui, moi c'est un peu aussi où la notion du placebo, j'ai l'impression que ça marche d'autant plus qu'on y croit en fait, qu'il y a une forme de croyance. Mmh. Du coup, si on se dit juste, oh, c'est un placebo, je le prends comme un placebo, ça marchera moins bien. Mais, et puis en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça marche? Et puis c'est du ça. Coup, pour continuer, c'est à un moment, j'ai l'impression, il y a plein de choses, on les teste en fait, parce que voilà, la connaissance de cause, ça peut être aussi savoir qu'une tisane de thym avec du miel et du citron, c'est pas vraiment dangereux, qu'un marron dans une poche, c'est pas dangereux.
J'adore comment tu refiles tes petits trucs au passage.
Un savon au fond du lit, a priori, un savon de Marseille au fond du lit, a priori, c'est pas non plus dangereux, et que c'est des petits trucs, c'est, je crois, c'est, je sais plus, c'est pour les enjolures ou la grippe. C'est aussi une méthode de grand-mère, mais où j'ai l'impression que c'est des choses, ben voilà, ça peut être des placebos, ça peut être des méthodes de grand-mère, ça peut être n'importe quoi, et il peut y avoir une croyance autour qui fait que le placebo marche mieux, et à partir du moment où on sait que c'est pas dangereux, on peut les tester sur nous-mêmes et les conseiller comme test, quoi. Et j'ai envie du coup aussi de parler des douleurs de règles, où à un moment on a tout mal au ventre, j'ai l'impression, et qu'on est toujours en train de tester plein de trucs et de se refiler des méthodes, et puis que ça marche pas toujours, mais des fois ça marche un peu, des fois, enfin...
Oui, moi j'ai l'impression que quand j'indique des choses aux gens, je leur dis, ben voilà, ça je trouve que ça marche bien, ou sur moi c'était efficace, ou sur moi ça n'a pas été efficace, mais je connais d'autres gens où ça marche. Et après, par rapport au placebo et à donner des médicaments, par exemple, où ça ne va pas forcément être utile, mais ça va rassurer le patient, ça c'est un problème qu'on trouve avec tous les médecins, quoi, et qui est un réel problème. Et à des moments de donner des médicaments qui font pas que du bien, mais vu que le patient il est en demande de médicaments, on va lui donner quelque chose.
Ouais, de tout ce que j'entends là, bah, encore une fois, ce que je retiens, c'est vraiment qu'il faut apprendre à se connaître, s'écouter, apprendre à écouter son corps, à prendre le temps de se poser pour comprendre qu'est-ce qui nous fait réagir de telle ou telle façon, pourquoi on est malade à tel moment. Et du coup, en effet, les choses vont marcher pour telle personne, mais pas pour d'autres. Mais ça marchera pas parce que, à un moment, quelque chose nous échappe, en fait. Et je reviens à ce que tu disais sur le fait de, en effet, il faut y aller en connaissance de cause. Et je reviens encore sur l'éducation. Et peut-être que les cours de biologie, de sciences naturelles et tout ça, il y a un gros vide sur la connaissance du corps et du bien-être.
Après, moi, il y a une limite un peu que je vois à tout ça, c'est que moi, ça fait des années que j'ai l'impression que mon corps est un espèce de champ d'expérimentation comme ça. Et, Et je pense que je me suis pas toujours fait du bien à essayer des trucs. Alors, du coup, j'essaye de dans ma démarche là, d'engager toujours les gens au dialogue autour de leur santé, autour des choix, notamment dans des alternatives où il y a pas de médecin référent pour suivre. Il y a pas de et souvent on se confronte à un regard jugeant. Quand on parle à des gens qui sont dans le médical, j'ai expérimenté telle chose sur mon corps et ça s'est passé comme ça ou comme ça. Et du coup, je trouve que c'est aussi un peu une limite dans ces recherches d'alternatives là. Alors ok, moi je prends la responsabilité d'engager mon corps dans une expérimentation, mais je trouve ça toujours un peu compliqué de gérer ce truc d'expérimentation. Un peu dans le sens où je me sens un peu seule par rapport aux professionnels.
Alors on va faire une petite pause musicale au milieu de ce débat qui, ça y est, commence à devenir je sens qu'on parle de vraies choses, parce qu'on pourra parler de la souffrance aussi, enfin, il y a plein de choses dont on pourrait parler. On va écouter un morceau de Amy Winehouse, Rehab, et après on continue de discuter, quoi.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine. They tried to make me go to rehab, I won't go. Seventeen days.
Alors, vous êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger. On parle de la santé et on vient un peu de discuter de comment on pouvait faire de l'automédication, se soigner soi-même, tester des médicaments sur soi, comment on avait tous des corps différents et qu'on était tous différents alors que tout...
Et toutes différentes.
Et que donc, on a des fois, des choses fonctionnent avec des personnes, ne fonctionnent pas avec d'autres. Et on va un peu... continuer sur ce sujet-là maintenant.
Moi, ça me faisait penser à la question de la douleur et de la souffrance, parce que si les enjeux de cette discussion sur comment vers quel genre de médecine on se tourne quand on a un problème avec sa santé, c'est pas le même enjeu pour moi si on parle d'un rhume, d'une grippe, d'une angine, des maladies qu'on a tous les hivers, et les douleurs de règles aussi qu'on a tous les mois. Enfin, c'est pas les mêmes enjeux que si on parle de maladies et de souffrance. Enfin, moi, la douleur physique, la souffrance, c'est pour moi une vraie question que je me pose sur comment on apaise ces souffrances et ces douleurs et quelle réponse on trouve. Et du coup, voilà. Et encore une fois, bah, du coup, si on a envie de chercher ailleurs que dans la médecine, pourquoi, comment on se plante pas. Et comment on nie pas non plus ce besoin, parce qu'on n'est pas tous et toutes en bonne santé toute notre vie. Il y a plein de moments où on traverse des moments difficiles, où on a besoin d'apaiser, de trouver des réponses à des choses difficiles qu'on vit physiquement.
Voilà. Oui, moi ça me fait vraiment penser à ce qui est raconté par Jean Carpentier et le comité d'action santé dans les années 70, qui parle vraiment de comment on donne du sens à la douleur, etc. Et je le mets en parallèle là, quand tu dis les douleurs de règles, c'est tous les mois, et pourtant en fait on est quand même pas mal à se retrouver cloué au lit pendant une journée tellement on a mal, et c'est des douleurs que je pense c'est... Quand on les vit pas, c'est difficile d'imaginer comment c'est fort et violent, en fait. Et à un moment, il y a des douleurs, elles sont acceptées, elles sont normales et elles sont normalisées et on les vit et c'est, limite elles sont pas graves parce que c'est normal de les vivre et je le mets en parallèle avec la notion que les femmes c'est un peu des chochottes et c'est un peu l'idée là, les femmes c'est des chochottes et en même temps les femmes y en a plein qui ont mal au bide une fois par mois vraiment violemment et la plupart elles accouchent dans leur vie et que c'est des douleurs pareilles qui sont très violentes et comment du coup aussi la douleur à des moments bah, soit parce qu'on y donne du sens soit parce qu'elles sont normales et ben on les accepte et d'autres on va vraiment tout de suite vouloir les arrêter et qu'elles n'existent pas et prendre des antidouleurs etc et ça me pose question ce rapport à la douleur notamment avec les femmes. Alors voilà, je sais pas trop ce qu'on peut en dire de plus, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi comment enfin, par rapport à la médecine et à la notion de la médecine en général, notre invité fantôme m'en avait un peu parlé en disant, mais par exemple, comment aussi c'est récupéré par la médecine, ce truc de antidouleur, par exemple, autour de l'accouchement, il y a eu ce truc à un moment de dire, hop, on n'aurait qu'à inventer la péridurale, ça soulage la douleur, etc. Mais comment aussi, d'un point de vue médical, c'est aussi purement capitaliste. Du coup, on fait des programmations d'accouchement, ça baisse le coût de revient, les accouchements, c'est pas à n'importe quelle heure de la nuit, etc. Enfin, du coup, c'est aussi plein de questions. Voilà, alors peut-être les gens veulent enchaîner là-dessus.
Non. Par rapport à la douleur, moi, ça me pose aussi d'autres questions sur le fait que, par exemple, quand tu as des douleurs tout le temps et que tu trouves pas, en fait, de médicaments, en fait, pour faire cesser tes douleurs, où il n'y a pas de réflexion aussi avec les médecins de comment faire avec, en fait, tes douleurs. Qu'il y a des tonnes de gens, en fait, qui ont des douleurs tout le temps et où, en fait, on ne parle jamais de aussi... pour l'instant, on n'arrive pas à trouver la cause, par exemple. Et il y a plein de maladies où on ne trouve pas la cause. Et comment, en fait, tu vas aménager ta vie? Comment tu vas faire avec ces douleurs pour qu'elles soient plus supportables?
Ouais, en parlant de douleurs, du coup, je rebondis un peu sur la péridurale, où ça aussi, c'est un peu un leurre. C'est bien pour certaines femmes, la péridurale. mais ça n'enlève pas toute la douleur. Alors qu'on a un peu cette illusion que si j'ai une péridurale, mon accouchement, il va se passer comme sur un petit nuage et je sentirai absolument rien. Si on sent absolument rien, c'est vraiment que la péridurale a foiré. Et du coup, c'est compliqué parce que du coup, on ne gère même plus du tout ce qui se passe au niveau de l'accouchement. On est un peu perdu et là, c'est carrément surmédicalisé. C'est la personne qui dit quand on doit pousser parce qu'on ne sait plus. Et du coup, quand c'est bien dosé, bah, on sent quand même. Donc, mais du coup, on sent moins. Et c'est là ce rapport à ce que disait Claire, à savoir gérer aussi la douleur. Non pas qu'il faille pas la péridurale, je dis pas ça du tout. Mais du coup, à se dire, en effet, ça peut amoindrir la douleur, mais j'aurai quand même une certaine douleur. Donc, comment je fais pour réussir à passer outre. Et c'est vrai que sur ça, il y a quand même des... Alors après, on y croit, on n'y croit pas, mais il y a des de plus en plus d'alternatives à préparation à l'accouchement. Il n'y a pas une seule préparation à l'accouchement. Et ça aussi, je trouve intéressant qu'on puisse avoir plusieurs réponses et qu'on cherche, en fait. Pour moi, ça a été l'aptonomie, mais il y a d'autres solutions, d'autres pratiques qui font que, du coup, on a une certaine maîtrise de son corps et qu'on aura quand même mal, mais on le vivra autrement. Et du coup, ouais, voilà.
Et la question, moi, que ça me fait me poser, c'est comment aussi on a du pouvoir vis-à-vis du médecin en lui disant là c'est ma limite, je demande quelque chose, ou là ça peut pas aller plus loin, ou là j'ai trop mal. Et comment on gère aussi à des moments pour dire non, mais en fait là, par exemple, typiquement chez le dentiste, moi je déteste vraiment les trucs qui endorment là, et je préfère souvent choisir le moment où on m'endort, où on me fait une anesthésie. Et c'est hyper dur des fois de dire au dentiste non, mais en fait, pas tout de suite l'anesthésie, je vais déjà voir si ça le fait, et après je vous demanderai une anesthésie. Et eux, comme c'est un peu là, genre ils ont tout le savoir, alors du coup ils estiment qu'ils vont t'imposer à quel moment ils te font l'anesthésie. Et ça, je trouve ça hyper dur en fait, de pas pouvoir choisir en fait sa douleur, parce qu'on n'a pas aussi toute la même tolérance à la douleur en fait.
À l'inverse, moi j'ai un bon exemple pour une fois. Ouais, je vais pas cracher dessus. C'est une copine qui a accouché récemment et qui a demandé une péridurale et à qui on a donné la dosette. Et donc tout le long de son accouchement, elle a pu doser si elle voulait, sa douleur en fait. Elle a pu gérer sa douleur toute seule. Et du coup, c'était à Lyon. Donc s'il y a des filles qui veulent regarder ça, enfin du coup il y a aussi des évolutions dans ce sens-là où
j'ai l'impression que ces dernières années il y a des évolutions sur le traitement de la douleur quand même dans le milieu médical et notamment hospitalier et tout.
Oui, il y a beaucoup de la dosette, par exemple, elle se fait beaucoup à la morphine, hein. Aussi vous voyez, il y a plein de personnes après des opérations, elles se donnent elles-mêmes leur shoot de morphine. Et bon, après mon grand-père, il avait ça par exemple. L'infirmière, elle arrivait, elle a dit ah, vous avez eu très mal. Il disait non, elle dit ben, pourquoi vous avez mis 24 vous avez appuyé 24 fois sur le bouton. Elle a dit ah, parce que ça faisait du bien. Du coup, enfin, il y a aussi ces trucs là qui sont expérimentés, quoi.
Et juste pour dire, en effet, il y a des avancées, mais du coup, faut quand même chercher l'information, quoi. Elle reste encore quand même, je trouve, minoritaire par rapport au reste. Et quand on parlait de la douleur et de certaines maladies, je pense à des maladies comme Parkinson, parce que là, autour de moi, je le vis, ou l'arthrose, ou des choses comme ça, où les médecins vont conseiller, par exemple pour l'arthrose, des opérations qui vont pas marcher. Et pourquoi il n'y a pas qui travaillent pas avec d'autres méthodes en complément, pas complètement annuler la médecine, mais travailler avec, je sais pas, de la phytothérapie, ou alors des thalassos ou des choses comme ça, pour justement apprendre à gérer la douleur, apprendre à vivre avec et réussir à maîtriser un peu son corps, même si c'est un petit peu, mais en tout cas que ça soulage un peu, quoi.
Ouais, sans même aller dans la médecine alternative. Enfin, moi, je sais que, par exemple, le sport m'a aidé à gérer ma douleur, en fait, à connaître mon corps et à savoir où est-ce que j'avais mal. Est-ce que je pouvais continuer sur la douleur ? Ça, je me dis, c'est super simple à faire pour les enfants, quoi. Leur faire connaître leur corps en pratiquant, en fait, en les amenant à pratiquer du sport ou des activités physiques et à aller voir où est-ce qu'ils peuvent aller, quoi.
Oui, mais moi je vois par exemple de connaître une personne qui a eu un problème d'arthrose dans sa vie, qui allait avoir une arthrose qui allait continuer toute la vie et qui l'a bloquée sans aucune opération en fait, en changeant d'alimentation, en changeant de manière de se tenir, de marcher, et du coup qui a fait tout un travail avec un ostéopathe et un kinésithérapeute et qui a bloqué en fait, alors qu'a priori c'est une maladie irréversible qui avance, qui est congénitale, blablabla, et en fait à plein de moments les médecins aussi ils sont hyper défaitistes et qui disent bon ben voilà, vous avez ça, c'est comme ça, et puis en fait alors qu'il y a plein de choses qui peuvent aider en fait soit à bloquer l'évolution, enfin plein de manières différentes en fait.
Après, je crois qu'il faut comprendre aussi le côté des médecins, parce que j'ai des quelques copains médecins qui eux sont là pour faire, du soin de masse. Et si et ils peuvent pas se permettre de dire, vous inquiétez pas, ça va peut-être revenir, etc. Parce que dans tous les cas, on va leur reprocher, en fait. Et du coup, ils doivent prendre en compte aussi la population qui a des demandes. Et ils peuvent pas, par exemple, on leur reproche souvent de pas s'engager sur un pronostic, mais parce qu'on le connaît pas, parce que il y a tant de pourcentage de chance, mais en vérité, c'est que des statistiques, et eux-mêmes sont dans des positions super délicates, quoi.
Alors, on arrive au terme de notre émission. J'ai l'impression qu'on pourrait effectivement discuter encore pendant des heures. Peut-être que notre invité fantôme avait encore quelque chose à dire pour conclure l'émission, je ne sais plus. Ernest, c'est toi qui représente l'invité fantôme.
Alors, l'invité fantôme...
Et aussi, si nos autres invités pas fantômes, vous avez envie de dire quelque chose pour conclure, vous n'hésitez pas.
Alors, l'invité fantôme réfléchit beaucoup en ce moment à la question de l'identité de la personne malade et de comment... Être malade, et ben c'est pas que un état, et des fois c'est aussi une identité, et qui racontait par exemple des histoires d'amis à elle qui sont dans des positions vraiment d'être dans la maladie et de le montrer, de le signifier publiquement dans leur manière de se tenir, de s'habiller, dans plein de manières différentes, et qui disait mais en fait à un moment la société elle est tellement oppressante que c'est une manière d'obtenir des privilèges auxquels on n'a pas accès, par exemple l'arrêt de travail, arrêter de travailler en étant malade, que juste ça fait du bien des moments d'arrêter de travailler, et que c'est une manière d'avoir ce privilège-là, d'arrêter de travailler, d'avoir un gros rhume ou une sinusite. Et, ou alors, c'est elle parlait du coup, elle, de femmes qui étaient où elle trouvait qu'elles adoptaient une identité de personne malade, et par exemple, en disant, ben, ça leur permet d'arrêter de faire le ménage à la maison, d'arrêter de s'occuper des gamins, d'arrêter d'être obligé d'avoir une sexualité, etc. Et du coup, comment à un moment ça permet d'échapper à la condition féminine que d'avoir l'identité d'une femme malade, quoi. Voilà, alors c'est une grande question encore parmi tant d'autres.
Ouais, c'est vachement intéressant. Du coup, ça ouvre. Ah, c'est bien, on finit sur une ouverture. Alors, on peut remercier tout le monde d'être venu participer à cette émission. Et puis, j'ai envie de faire un appel quand même à nos auditrices et auditeurs. Si ça vous pose des questions, si ça vous donne envie de réagir, vous n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse email qui permet ça, donc pimienta.org. Donc n'hésitez pas à nous écrire si ça vous donne envie de réagir. On me fait passer une petite info vite fait à Paris le mercredi. Non, tu peux montrer ton papier. Une marche de nuit à Paris le 27 novembre. Cherchez des infos. Une marche de nuit de femmes, donc non mixte. Et puis, on peut se dire au revoir. Et merci à tout le monde. Merci à toutes. Et on se quitte avec une chanson. Je présente vite fait, mais surtout, on aura plus d'occasion de les rencontrer puisque c'est nos invités de la prochaine émission. Le 10 novembre, on invite des comédiennes, des artistes de Haïti. Donc des femmes haïtiennes qui viennent à Grenoble pour une création dans le cadre du FITA, le Festival International de Théâtre Action, un spectacle qui s'appelle « Femmes en situation de crise ». On vous invite à vous renseigner sur ça, et on écoute un morceau issu d'un CD qu'elles ont produit. Donc c'est Rara Femme. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.